11 avril 2018, bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens, c'est Hélène Denis au micro. Et en face de moi, Jean-Sébastien Laliberté, en ce mercredi. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Hélène.
Vous êtes en forme?
Mais oui.
Oui.
Mais oui, fort, fort en forme.
Tant mieux, tant mieux. Le temps doux commence à se faire sentir aujourd'hui et demain, paraît-il, ainsi que vendredi. Puis après ça, bien, ce sera le retour de l'hiver pour quelques jours. Alors voilà, vous savez tout de la météo pour les prochains jours.
11 avril, nous sommes la journée mondiale de la maladie de Parkinson, cette maladie dégénérative qui, bien que rare avant les avant d'avoir 45 ans, touche 1,5% de la population de plus de 65 ans et qui atteint autant les hommes que les femmes. Le 11 avril, c'est une journée que j'aime bien intituler la journée des traités.
Ah oui, il y en a plein.
Plusieurs traités ont été mis de l'avant en 11 avril. 11 avril 1564, le traité de Troyes met fin à une guerre entre la France et l'Angleterre. En 1713, la France, l'Angleterre, la Hollande, la Savoie, le Portugal et la Prusse signent le traité d'Utrecht. L'Angleterre obtient les droits sur les territoires dont l'Acadie et Terre-Neuve, tandis que l'Espagne cède Gibraltar à l'Angleterre. 11 avril 1805, par le traité de Saint-Pétersbourg, l'Angleterre et la Russie s'allient pour libérer le nord de l'Allemagne. C'est la troisième coalition contre la France de Bonaparte. Et 11 avril 1814, traité de Fontainebleau qui consacre l'abdication de Napoléon et son exil à l'île d'Elbe.
Vous avez raison de traiter le 11 avril de la journée des traités. Jeu de mots!
Oh! 11 avril 1768, sous un tout autre angle, plutôt, en 1768, une explosion détruit un tiers des édifices de Montréal. 1865, Louis Pasteur dépose son brevet sur la méthode de chauffage du vin qui va porter son nom, la pasteurisation.
Oui.
Et qui ne sera bien sûr pas uniquement pour le chauffage du vin, mais qui sera appliqué à plusieurs autres concepts. 1970, la très célèbre phrase « Houston, nous avons eu un problème ».« Houston, we've had a problem ». Le vaisseau lunaire Apollo 13 décolle de la Floride. Une explosion dans le module de service écourtera la mission. Les trois astronautes rentreront sains et saufs. Et comme j'ai pu le redécouvrir en fin de semaine dernière en écoutant une émission scientifique, ils ont pu s'en sortir, entre autres, grâce à du duct tape.
Ah oui, je ne sais pas si on voit ça dans le film de Ron Howard avec Tom Hanks.
Ça fait déjà plusieurs années que je l'ai vu. Très bon film qui a été primé. En 1972, toujours un 11 avril, les 210 000 travailleurs québécois des centrales CSN, FTQ, CEQ, représentés par le Front commun intersyndical, déclenchent un arrêt de travail total et illimité. 11 avril 1990, la religieuse albanaise Agnès Bajagsiou.
Bravo.
Mère Teresa.
OK, plus simplement.
Beaucoup plus simple. 79 ans, quitte la direction des missionnaires de la charité de Calcutta qu'elle dirigeait depuis 1950. 1996, début d'attaque israélienne contre les chiites pro-iraniens du Hezbollah en banlieue de Beyrouth et au sud du Liban. Et 2008, la Cour suprême établit que la GRC doit offrir des services en français et en anglais à tous les résidents du Nouveau-Brunswick. 11 avril, anniversaire de naissance en 1925 de l'éditeur et homme d'affaires Pierre Péladeau. 1914 du cinéaste Norman McLaren et de James Parkinson en 1755. On revient bien sûr avec cette journée mondiale du Parkinson en lien avec cet anniversaire. Et pour conclure, 11 avril 1977, décès du poète français Jacques Prévert et 2007 de l'écrivain américain Kurt Vonnegut.
Merci mon cher. Actualité à la une donc de la presse, secours par les voies des airs, cri du cœur pour des hélicoptères dans la foulée de la tragédie en Saskatchewan vendredi dernier. Le docteur David Mulder, chirurgien et médecin du Canadien, se dit troublé que le Québec soit la seule province dépourvue d'un programme de transport préhospitalier par hélicoptère. La chronique de Marie-Claude Lorty, Mark Zuckerberg, Facebook et l'échec de l'autodiscipline. Philippe Quentin, entrevue avec Jeff Molson, j'ai du travail à faire avec nos partisans. Guerre en Syrie, le tabou des armes chimiques, y a-t-il une façon, entre guillemets, noble de tuer des enfants? Point d'interrogation. Pause oxygène, entraînement, montre-moi ta montre, l'heure juste sur un accessoire devenu quasi indispensable. C'est un article de Caroline Touzin. Chirurgien émérite et médecin officiel du Canadien de Montréal durant 50 ans, le docteur David Mulder lance un cri du cœur pour que le Québec se dote d'un programme de transport préhospitalier par hélicoptère similaire à celui qui a contribué à sauver des vies dans la tragédie routière en Saskatchewan. Dans une lettre adressée au ministre de la Santé Gaétan Barrette et transmise à la presse, le médecin se dit troublé par le fait que le Québec soit la seule province au Canada dépourvue d'un tel programme. Le docteur Mulder explique avoir été profondément ébranlé par l'accident qui a décimé les Broncos de Humboldt, une équipe de jeunes hockeyeurs de la Saskatchewan. 15 personnes sont mortes et 14 autres ont été blessées. C'est d'autant plus bouleversant pour moi qu'en tant que joueur amateur, j'ai moi-même connu mon lot de voyages en autocar lorsque je jouais au hockey dans les rangs juniors en Saskatchewan, ma province natale, souligne-t-il. Le chirurgien réputé demande au gouvernement du Québec de se servir de cette tragédie pour revoir notre gestion des traumatismes sévères en région rurale et tous les aspects des soins préhospitaliers pour arriver à l'égalité des soins et des chances de survie pour tous les Québécois qu'ils habitent en milieu rural ou urbain. Et à la toute fin de l'article, on peut lire, questionné par la presse, le ministre de la Santé Gaétan Barrette a fait savoir par la voix de son attachée de presse Catherine W. Audette hier que des travaux sont présentement en cours à ce sujet sans donner plus de détails. Le Québec est la seule province canadienne dépourvue d'un programme public de transport préhospitalier par hélicoptère. Air Médic est l'unique entreprise québécoise entièrement vouée aux services médicaux aéroportés sur tout le territoire de la province. Il faut cependant être membre pour en bénéficier, sauf si la demande émane du gouvernement. Un groupe de médias tente de convaincre la Cour supérieure de rendre publiques les images captées lors de la tuerie à la Grande Mosquée. Alexandre Bissonnette risque d'écoper de la plus longue peine de prison de l'histoire moderne canadienne et le débat entourant ce verdict, peut-être historique, sera incomplet si le public ne peut voir les vidéos du massacre à la Grande Mosquée de Québec. C'est ce qu'a fait valoir hier l'avocat d'un consortium de médias. Maître Jean-François Côté tente de convaincre la Cour supérieure de permettre aux médias de diffuser les vidéos de la tuerie, expurgées des passages les plus violents. La vidéo est parlante, elle est criante. Les images de la tuerie du 29 janvier 2017 doivent être déposées par la poursuite lors des plaidoiries sur la peine qui commence aujourd'hui. Selon l'avocat des médias, si la poursuite estime que ces images sont pertinentes dans les débats, sur la peine de Bissonnette, alors elles sont pertinentes pour la population. Pourquoi, si les médias enlèvent les images de violence crue, on les empêcherait de diffuser ces images et de laisser aux gens le droit de se faire leur propre idée? C'est une question que pose Maître Jean-François, avocat d'un consortium de médias, donc. La Couronne est d'accord pour que les médias puissent décrire le contenu des vidéos, mais s'oppose farouchement à leur diffusion. Elle a fait témoigner deux experts vendredi. Selon eux, la diffusion des vidéos pourrait traumatiser les survivants et les familles des victimes, influencer d'autres tireurs et même créer des imitateurs de Bissonnette. Et oui, j'en ai vu un ce matin en m'en venant au travail. Bixi devance le début de sa saison. Bon, à l'issue d'un hiver rigoureux, Bixi a décidé d'avancer le début de sa saison en permettant dès hier aux Montréalais d'enfourcher les vélos en libre-service, soit 5 jours plus tôt qu'à la normale. L'organisation gérant Bixi a lancé hier sa 10e saison en annonçant plusieurs nouveautés. Ainsi, plutôt que de compter exclusivement sur des camionnettes pour redistribuer les vélos, l'organisation expérimentera une nouvelle façon plus écologique de les déplacer, 2 tricycles. Baptisés Bixi Remorque, ces 2 véhicules nouveaux genres seront utilisés dans les zones de circulation dense ou sur les artères difficiles d'accès aux camions remorques traditionnels. La remorque à pédales, qui pourra redistribuer jusqu'à 12 vélos, sera munie d'un moteur électrique pour faciliter son utilisation. 258 000, ça c'est le nombre de personnes qui ont utilisé Bixi l'an dernier. Ancien PDG de l'Ordre des conseillers en ressources humaines, Florent Francoeur a été radié à vie pour avoir eu des liaisons secrètes avec 5 de ses employés sur une période de 10 ans, de 2005 à 2014. La décision du Conseil de discipline de l'Ordre professionnel a été rendue publique hier. Ironiquement, l'organisme dirigé pendant 23 ans par M. Francoeur est responsable des comportements et de la déontologie des professionnels de la gestion des ressources humaines. M. Francoeur nous apparaît comprendre qu'en agissant comme il l'a fait, il n'a pas respecté les frontières de sa relation professionnelle avec les femmes au dossier, dit le Dr Marc Ravard dans son rapport d'expertise psychosexuelle concernant l'accusé. « 112 ans et 259 jours, âge de Masazo Nonaka, nouveau doyen de la planète, qui a reçu hier un certificat des mains d'un représentant du livre des records du monde Guinness. La plus vieille femme du monde est la japonaise Nabi Najima Tajima, qui a plus de 117 ans. » Plusieurs universités françaises ont été bloquées hier par des étudiants qui protestaient contre les nouvelles modalités d'accès à l'enseignement supérieur ainsi qu'à la sélection qu'elles induisent et plus largement contre la politique du président centriste Emmanuel Macron. À Paris, quelques 1 200 personnes ont défilé entre l'Université de la Sorbonne et celle de Jussieu contre la loi Vidal du nom de la ministre de l'Enseignement supérieur français, Frédérique Vidal. La loi sur les nouvelles modalités d'accès à l'université prévoit notamment que les universités françaises doivent désormais étudier et trier les dossiers des lycéens, chacune selon ses propres critères. Jusqu'à l'an dernier, c'est un algorithme qui permettait de classer les candidats aux études supérieures. Le président Donald Trump a prévenu mercredi que les missiles s'en viennent après que la Russie eût mis les États-Unis en garde contre d'éventuelles frappes militaires en Syrie en réplique à une présumée attaque chimique qui a fait une 40aine de morts. M. Trump a lancé sur Twitter que la Russie a promis d'abattre tous les missiles tirés en direction de la Syrie. Il prévient alors Moscou de se préparer parce que les missiles s'en viennent tout beaux, tout nouveaux et intelligents.
Un cadeau pour moi, non, bon, ça va aller vite, garde ton manteau sur le dos. Pour dire la vérité, ça fait pas mal longtemps que j'ai pas pensé à toi, fait que rappelle-moi non, comment que ça se fait que je te connais. Ah oui, t'es l'ami d'un ami, d'une amie, à demi-ami d'une amie de Mimi, que t'as mis dans le lit d'une mamie, ami, ami. Pensez pour toi peut-être, les amis, c'est comme le vin. Quand ça donne mal à la tête, c'est parce que ça vaut rien. Même d'un moment, toi, sincèrement, t'es le genre de gars qui comprend vite. Peut-être, mais ça te prend tout toujours un peu de temps. Ils sont bons des arguments, des lits d'un la mythe, à la limite un jour vont valoir cher au milieu du désert. Des bétonnasses qualité que j'aime, c'est signe comme quoi t'as bien de la classe, mais comme on dit, rien que la troisième. Tu prends mon nom, non, tu lis les lettres à travers la langue, ben one more time, mais ça va toujours, non. T'es gros, t'es fort, mais c'est pas grave, tu vas sortir quand même, ça me prendra deux voyages. Quand je baisse les brosses pour poigner mon gun, va comme bienvenue, si tu t'en vas, salut, bye bye, dégage.com. Tu peux rendre service à la société, que je te dis mon ami, je te verrai bien comme guitariste dans le métro de Matagabir. Leurs exagères un petit quelque part, ta belle visite, t'en fera toujours plaisir. Pas quand t'arrives, mais quand tu pars.
On vient d'entendre l'humour de Richard Desjardins avec de la grande visite, pièce qui clôt son album de 2003, Kanasuta.
En une du devoir, Facebook des heures difficiles, un visage pas souriant du tout, c'est celui de Mark Zuckerberg. Le président fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a dû affronter durant 4 heures les sénateurs américains qui l'avaient convoqué à la suite du détournement de données de 87 millions d'utilisateurs du réseau social par la firme britannique Cambridge Analytica. Crise des opioïdes, médecins et pharmaciens sous surveillance. Un outil permettra aux ordres professionnels de détecter ceux qui abuseraient du carnet de prescription. Tuerie de la Grande Mosquée de Québec, une vidéo pose la question de la liberté de la presse. La Couronne veut soustraire au traitement médiatique les images de l'attentat. Et toujours en une du devoir, Cinémathèque québécoise, Bergman, l'homme qui tua Dieu. La trilogie de la foi du cinéaste suédois est bien plus personnelle qu'on pourrait le croire. Les coulisses de la foi et du doute. Entrevue avec Xavier Giannoli pour son film Une apparition, un thriller théologique. Sondage, la CAQ reste en tête, mais l'écart se rétrécit. Michel David signe une chronique intitulée « Trop haut, trop tôt ». Et Trans Mountain, Ottawa semble démuni pour forcer la main à la Colombie-Britannique. Les images montrant la tragédie du 29 janvier 2017 à la mosquée de Québec doivent-elles être rendues publiques? Leur diffusion risque-t-elle d'inciter des gens à la violence? Devrait-on en diffuser une partie expurgée des passages les plus dérangeants? Un juge doit trancher le débat mercredi, aujourd'hui, au Palais de justice de Québec. Les images en cause ont été filmées par les caméras de surveillance de la mosquée dans la soirée du 29 janvier. La Couronne souhaite les utiliser en preuve pour déterminer la peine à imposer à Alexandre Bissonnette. Or, elle s'oppose à ce que les médias puissent avoir accès à la vidéo, comme c'est le cas en temps normal pour les éléments de preuve utilisés devant les tribunaux. Les médecins et les pharmaciens devront bien se tenir lorsqu'ils prescrivent et servent des opioïdes à des patients, car bientôt, leurs actions seront surveillées électroniquement, à même le dossier Santé Québec DSQ. Toute pratique hors norme pourra être rapportée directement aux ordres professionnels pour enquête. Le docteur Yves Robert compare le mécanisme au radar de vitesse qui peuple nos routes. Il nous force à ralentir. De la même façon, les médecins et les pharmaciens devraient, se sachant surveillés, ajuster leurs pratiques aux meilleurs standards, espère le secrétaire du Collège des médecins du Québec. Des guides de pratique à jour sur les opioïdes seront aussi publiés pour outiller les professionnels. « L'œuvre d'Ingmar Bergman compte parmi les plus riches et les plus importantes de l'histoire du 7e art. Elle recèle maintes chefs-d'œuvre dont les titres viennent spontanément à l'esprit, Le Septième Sceau, Persona, Cris et chuchotements, Scène de la vie conjugale, Fanny et Alexandre, pour ne nommer que ceux-là. S'il en est d'autres, à travers Le Miroir, Les Communiants et Le Silence ne sont pas parmi ceux que l'on cite en premier. Il n'en occupe pas moins une place fondamentale, écrit François Lévesque, très personnelle dans la filmographie du maître suédois. Cette trilogie de la foi fait partie de la remarquable sélection que propose la Cinémathèque jusqu'au 30 avril à la faveur du cycle Bergman, l'œil de la mise en scène dans le cadre de Printemps nordique. Zuckerberg sur le grill, le mea culpa de Facebook se poursuit devant le Congrès à Washington. Un coup de tonnerre n'aurait pas eu plus d'effet sur le Capitole. Mark Zuckerberg répondait mardi après-midi à Washington aux questions des sénateurs américains depuis une heure et demie, quand Richard Durbin, le représentant démocrate de l'Illinois, lui a carrément demandé s'il accepterait de révéler dans quel hôtel il avait passé la nuit. Le président fondateur de Facebook a répondu non, après une légère hésitation. Alors, pouvez-vous nous fournir les noms des personnes avec lesquelles vous avez été en contact depuis une semaine, a renchéri l'élu? Monsieur Zuckerberg a encore refusé. Voilà exactement la raison de notre rencontre. Le droit à la vie privée, les limites de ce droit et ce qui en reste dans l'Amérique moderne au nom de l'interconnexion des gens dans le monde, a conclu Monsieur Durbin. La question revient à savoir quelles informations collecte Facebook, à qui elles sont envoyées et si on nous demande à l'avance la permission de faire tout ça. Le fondateur du réseau social témoignera devant des représentants du Congrès aujourd'hui aussi. Cette exceptionnelle double sortie fait suite au détournement des données de quelque 87 millions d'utilisateurs à des fins politiques par la firme britannique Cambridge Analytica. J'ai lancé Facebook, je le dirige et je suis responsable de ce qui arrive, a dit d'entrée de jeu Mark Zuckerberg, jeune entrepreneur de 33 ans, à la tête du plus grand réseau social en ligne du monde. Nous avons fait beaucoup d'erreurs en gérant cette compagnie. C'était mon erreur et je suis désolé, a-t-il ajouté à propos de la propagation de fausses nouvelles. M. Zuckerberg a d'ailleurs annoncé que son entreprise collabore avec l'enquêteur Robert Mueller, chargé d'enquêter sur l'ingérence russe dans les présidentielles américaines de 2016. Des employés de Facebook ont été interrogés par l'équipe d'enquête fédérale. Un de mes plus grands regrets à la tête de cette compagnie, c'est que nous avons été lents à identifier les opérations russes de contrôle d'informations, a dit Zuckerberg. Il a ajouté que la compagnie employait maintenant l'intelligence artificielle pour surveiller et bloquer ces interférences. Sondage, la CAQ en perte de vitesse. Le coussin est subitement moins confortable. La coalition Avenir Québec, CAQ, qui détenait une avance de 11 points de pourcentage dans les intentions de vote à la fin janvier, ne devance plus les libéraux que par 5 points, révèle un coup de sonde mené par la firme Léger pour le réseau LCN. À moins de 6 mois des élections, la CAQ est ainsi créditée de 34 % des intentions de vote. C'est une baisse de 3 points depuis le précédent sondage publié il y a un mois par Le Devoir et le Journal de Montréal. Ces points sont entièrement grappillés par les libéraux qui remontent de 26 %, un plancher touché en mars, à 29 %. La réception généralement positive au dernier budget Létao a pu contribuer à cette progression. Le Parti québécois continue pour sa part de stagner et récolte aujourd'hui 21 % d'appui. Même absence de mouvement à Québec solidaire qui aurait remporté 9 % des votes si une élection avait eu lieu cette semaine. Il n'empêche que plusieurs indicateurs montrent que la CAQ a de bonnes chances de former le prochain gouvernement, mais il serait minoritaire, selon M. Léger, Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage. Léger. D'une part, François Legault est toujours perçu comme le meilleur premier ministre avec 28 % d'appui, Philippe Couillard 16 %, Jean-François Lisée 11 % et Manon Massé, 5 % sont loin derrière. Trans Mountain, Ottawa démuni pour forcer la main à la Colombie-Britannique. Malgré la promesse de Justin Trudeau, le cabinet libéral apparaît divisé sur la question de l'imposition du pipeline. Bien qu'ils se disent résolument engagés à assurer l'expansion de l'oléoduc Trans Mountain, le gouvernement Trudeau ne révèle toujours pas de quelle façon il s'y prendra. Il continue de marteler simplement que le pipeline sera construit. Mais les options qui s'offrent au fédéral sont limitées, préviennent des constitutionnalistes. On va continuer d'insister et de défendre le droit du fédéral de gérer l'intérêt national parce que sinon, la Fédération canadienne ne fonctionne plus, a dit Justin Trudeau, premier ministre du Canada. Le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé mardi pour un an sa mission de police en Haïti après des tensions récentes avec le gouvernement haïtien qui avait accusé cette force d'ingérence politique. Le mandat de la mission de l'ONU pour l'appui à la justice prévoit une diminution progressive du nombre des policiers onusiens à partir du 15 octobre et mentionne la perspective d'un retrait sur 2 ans devant s'achever en octobre 2019. En février, début mars, la MINUJUS, donc c'est la justice, environ 1200 policiers qui est dans la MINUJUS, avait mécontenté les autorités haïtiennes en saluant la nomination de juges chargés d'instruire des plaintes déposées depuis le début de l'année dans le cadre d'un dossier de corruption dans lequel seraient impliqués plusieurs anciens ministres. Vous écoutez le quotidien des quotidiens, l'antenne de Canal M de Vues et Voix. En ce mercredi 11 avril, c'est Hélène Denis qui vous accompagne. Restez avec nous, la suite de l'émission dans quelques instants. An ocean made its way from your coast to my eyes. You've been hired by them on a brighter side. And miss you every day, LA got me so sad. I wanna kiss your face tonight, it drives me mad. Always separating us, it's never raining. Cause your skin and your sun in my eyes when we go dancing in bed at night. I can't resist ya, no, I miss ya, I can't resist ya. When I see your dark gaze on the shore, no, I can't work anymore, cause I got a feeling that we're breathing together in the end.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Le Quotidien des Quotidiens. C'était la nouveauté de Charlotte Cardin, la pièce California.
À la une du Journal de Montréal de ce mercredi, testament politique choc de Jacques Daou, sacrifié pour avoir refusé de mentir. Dans un document inédit, l'ex-ministre de l'Économie affirme avoir payé le prix pour son refus d'endosser son gouvernement dans la vente controversée de Rona. Les prédateurs sont favoris pour soulever la Coupe Stanley. Des millions pour cette toile au Québec. Sondage léger LCN, 34 % CAQ, 29 % Parti libéral, 21 % PQ et 9 % QS. Hanté jusqu'à sa mort, alors qu'il était ministre, Jacques Daou affirme avoir été trahi par son chef de cabinet et qu'il n'était plus dans les bonnes grâces du premier ministre. Jacques Daou était furieux qu'on lui demande de dire publiquement qu'il était d'accord avec cette vente d'actions par Investissement Québec, alors qu'il ne l'était absolument pas. Les actions ont éventuellement abouti dans les mains d'intérêts américains plutôt. Décédé soudainement l'été dernier, l'ex-ministre Daou a longuement mûri l'affaire Rona après son départ de la politique, au point de miner sa santé. L'ancien ministre libéral était tellement frustré par cette transaction controversée qu'il a mis ses souvenirs par écrit dans un document qu'il a laissé à des conseillers politiques, un peu en guise de testament, quelques mois avant sa mort. Notre bureau d'enquête a pu le consulter. M. Daou ne s'en cache pas. Il n'a jamais été favorable à la vente des actions de Rona par Investissement Québec, IQ. Il ne voulait d'ailleurs pas autoriser cette transaction. C'est pourquoi il estime s'être fait carrément jouer dans le dos par son personnel politique, en particulier son chef de cabinet qui a autorisé la vente sans lui en parler. Dans son document, Jacques Daou écrit s'être ensuite senti sous forte pression pour qu'il assume cette mauvaise décision prise dans son dos. Il aurait été beaucoup plus facile de mentir, écrit-il, et de dire qu'il avait approuvé la vente. L'affaire Rona lui a fait perdre le sommeil pour la première fois de sa vie. Il était persuadé que cela aurait aussi provoqué chez lui une première attaque de cœur, alors qu'il était toujours en politique, soit un an avant sa mort. Profondément déçu, il était même convaincu qu'il serait resté ministre s'il avait accepté de mentir et de prendre le blâme pour cette transaction. Jacques Daou ne ment pas, peu importe le prix à payer, écrit-il. Des millions de dollars pour un Saint-Jérôme appartenant à la paroisse Notre-Dame de Québec, la toile pourrait être acquise par le Musée des beaux-arts du Canada. Le mystère entourant le trésor national que le Musée des beaux-arts du Canada souhaite acheter, après avoir vendu un de ses tableaux du peintre Marc Chagall pour plusieurs millions de dollars, semble avoir été percé. L'agence QMI a découvert que la pièce manquante du puzzle pourrait tirer son origine de la capitale québécoise du côté de la paroisse Notre-Dame de Québec. L'œuvre mystérieuse est une toile d'une grande valeur intitulée « Saint-Jérôme entendant les trompettes du jugement dernier », réalisée au 18e siècle par le peintre français Jacques-Louis David, qui a été peintre officiel de Napoléon Bonaparte. Jeudi dernier, le musée d'Ottawa avait créé un immense suspense à travers le Canada, en annonçant qu'un Chagall de sa collection, la Tour Eiffel, estimée à 6 à 9 millions de dollars US, allait être vendu aux enchères à New York le 15 mai et qu'avec les produits de cette vente, un trésor national canadien de valeur correspondante serait acquis. Il n'y a pas d'entente officielle de conclue, mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup parlé. Le Musée des beaux-arts du Canada s'est montré intéressé à faire l'acquisition de l'œuvre, très intéressé, a expliqué hier Monseigneur Denis Bélanger, curé de la paroisse Notre-Dame de Québec, dont la fabrique est propriétaire du tableau de David. Il s'agit d'une œuvre importante, notamment pour Québec, non seulement pour sa valeur artistique, mais aussi en raison de sa provenance. Elle avait été apportée de ce côté-ci de l'Atlantique par les descendantes d'un artiste français, Nicolas Mélan, qui en avait fait l'acquisition lors d'une vente publique. Monseigneur Bélanger a expliqué à l'agence QMI que c'est la fabrique en réflexion au sujet d'une éventuelle vente de l'œuvre qui a approché le musée d'Ottawa pour voir s'il y avait de l'intérêt. Avec l'argent tiré de la vente de ce tableau, la paroisse veut assurer la pérennité de ces lieux très fréquentés, soit l'église Notre-Dame des Victoires et la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, a expliqué Monseigneur Bélanger. Une transaction avec le Musée des beaux-arts du Canada n'a toutefois pas encore été conclue et l'agence QMI a appris que le Musée de la civilisation et le Musée des beaux-arts de Montréal lorgnent également le tableau de David. Le corps d'une femme dans la trentaine a été repêché hier soir dans la rivière des Prairies à proximité du pont de l'autoroute 19. Le service de police de la ville de Montréal a indiqué que ce sont des citoyens qui ont signalé avoir aperçu le corps vers 18h30. Ce dernier a été repêché par les pompiers. La cause du décès demeurait inconnue en soirée. Le SPVM a précisé qu'aucun élément criminel ne serait impliqué. Le Conseil d'éthique de l'industrie québécoise des boissons alcooliques somme le gouvernement de rendre illégale l'utilisation du sexisme et de l'exploitation sexuelle pour vendre de l'alcool. Dans son mémoire, le Conseil donne l'exemple de la microbrasserie Le Corsaire qui commercialise des bières appelées « tite pute » ou « la blonde facile » et qui utilise l'image d'une femme dans une cage pour vendre la bière « la perruche ». Les coûts des catastrophes naturelles ont atteint des sommets en 2017 selon une étude publiée hier par le réassureur suisse Swiss Re, qui a revu ses premières estimations à la hausse. L'an passé, les pertes économiques engendrées par les catastrophes naturelles et les désastres causés par l'homme, tels que les incendies ou les accidents industriels, se sont élevées à 337 milliards de dollars, a indiqué le groupe suisse dans son étude intitulée Sigma. Les pertes prises en charge par les assureurs après les catastrophes ont, elles, atteint 144 milliards de dollars, ce qui en fait l'année la plus coûteuse pour les assureurs jusqu'à aujourd'hui. Les trois ouragans, Harvey, Irma et Maria, qui se sont abattus sur les Caraïbes et les États-Unis, ont à eux seuls engendré 217 milliards de dollars. Et l'administration américaine a commencé à discuter avec la Corée du Nord pour préparer le futur sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un, a confirmé hier le Département d'État américain. Je peux seulement confirmer que le gouvernement des États-Unis est engagé dans des discussions avec la Corée du Nord au sujet de notre prochaine rencontre. C'est la première fois depuis l'annonce d'un sommet Kim-Trump, initialement proposé en mars par la Corée du Nord, par l'intermédiaire de la Corée du Sud et aussitôt accepté par le président américain, que l'administration américaine fait officiellement état de contact direct.
Il paraît que ça fait 20 ans qu'elle a pas pris un bain, que ses sous-vêtements se sont soudés ceux d'avant. Il paraît qu'elle a des gales, ses jambes et puis qu'elle les donnerait à manger à ses 70 chats pour qu'ils vivent éternellement. C'est écœurant, Marie-Louise, la vieille femme du village est victime de commérage. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est pas vrai, mais va donc savoir l'histoire de Marie-Louise. Il paraît comme ses chats et ses féroces et ses voraces. La nuit, il faut qu'elle l'enfant dans une cage de brasse. Il paraît que c'est un énorme matou. Quand il est en diable, il saute au corps, il saute au cou, il peut griffer jusqu'à la mort. Celui qui ose s'aventurer près du décor de Marie-Louise, la vieille femme des moulins, fait placoter ses voisins. Mais moi, c'est le curé qui me l'a conté. Il y a tellement de oui tire sur Marie-Louise. Ça sent le pipi, pis vieux vomi. Quand elle t'arrête, t'as demandé quelle heure qu'il peut être. Pis parent, qu'elle mange la bouffe pour les chats. Et pis qu'elle pareille à vieille sorcière en propre luche. Petite hutte, patte de poule. Cours, petite, cours, petite, cours, cours, cours. Marie-Louise, pour la vieille femme du village est victime de commérage. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est pas vrai. Va-t-on savoir l'histoire de Marie-Louise?
Marie-Louise, 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 Marie-Louise. Ah, 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 ah!
Il paraît que ça fait 20 ans qu'elle a pas pris un bain, que ses sous-vêtements se sont soudés sur ceux d'avant. Il paraît, quand l'ambulance est arrivée, ils l'ont rentrée à l'hôpital, ils l'ont pognée, ils l'ont trempée dans le mazout comme une vieille poêle enduite de clope. Oh oui, je l'aurai dans la mémoire longtemps. Marie-Louise a rendu l'âme. Sa carapace était plus là pour la protéger de la rapace. Marie-Louise, fille des moulins, c'est bien valeur à ses déteins. C'est monsieur curé qui me l'a conté. Va donc savoir l'histoire de Marie-Louise. L'histoire de Marie-Louise.
Retour en 1994 avec la chanson culte du groupe Zébulon, l'inimitable Marie-Louise.
Place aux journaux régionaux, on commence avec une belle nouvelle, une bonne nouvelle rassurante. Dans le Nouvelliste, sous la plume de Vincent Gauthier, porté disparu depuis le 3 avril, Ariel Pronovo a été retrouvé par la Sécurité publique de Trois-Rivières mardi soir. La mère de la jeune fille de 17 ans avait lancé un cri du cœur dans les pages du Nouvelliste mardi matin, implorant la population de faire preuve de vigilance afin d'aider à la retrouver. Tard mardi soir, la SPTR a donc confirmé avoir retracé l'adolescente qui était en fugue, précisant qu'elle se portait bien. Dans Le Soleil, la chronique de François Bourque intitulée « Pourquoi montrer des images? » Aucun média sérieux n'a le goût de diffuser les images intégrales de la tuerie de la Grande Mosquée de Québec captées par des caméras de surveillance. Et je suis convaincue qu'à peu près personne d'entre vous n'a le goût de voir ces images à la télé ou sur nos supports électroniques. On a l'impression d'en savoir assez long sur l'horreur de ce soir-là sans qu'il soit besoin d'en enfoncer les images, seconde après seconde, dans l'imaginaire collectif. La couronne, les avocats d'Alexandre Bissonnette et la communauté de la mosquée s'opposent d'ailleurs à leur diffusion. Des témoins experts de la couronne ont fait valoir que cela aurait un effet traumatisant, cruel et inhumain sur les victimes et leurs familles, que cela pouvait inciter à la vengeance ou à avoir un effet de « contagion » entre guillemets « copycat », pouvant mener à d'autres tueries de masse. Ils ont plaidé le risque que ces images soient utilisées à des fins de propagande par des djihadistes, néo-nazis ou autres groupes extrêmes une fois qu'elles auront pris le chemin d'Internet. Cela pose un enjeu d'ordre public et de paix sociale, croit-il avec raison. L'effet de contagion est documenté pour les suicides, ce qui a mené les médias à plus de retenue. On sait maintenant qu'avant la tuerie de la Grande Mosquée, l'auteur a consulté plus de 200 fois des images de celles survenues dans une église de Charleston, sans parler de polytechnique. Cela renforce la thèse du risque de contagion. Il y a aussi un débat dans le métier de journaliste sur le risque de glorifier des anti-héros en les nommant, en faisant leurs portraits et en montrant les images de leur réussite « exceptionnelle », entre guillemets. D'autres arguments de la couronne sont moins convaincants. Celui voulant que la diffusion d'images serait une profanation du lieu sacré qu'est la mosquée. Peut-être, mais le Centre culturel islamique de Québec a lui-même ouvert ses portes au lendemain de la tuerie pour montrer le sang sur le tapis et les trous de balles dans les murs. Malgré les risques connus ou appréhendés, un groupe de médias, dont Le Soleil, demande pourtant à pouvoir diffuser des extraits vidéo de la tuerie. Le juge François Huot de la Cour supérieure doit rendre sa décision mercredi matin. Je n'ai pas vu les images que les médias voudraient avoir la permission de diffuser. J'ai compris qu'on n'y voit pas la mort en direct, ni les visages des victimes et des survivants, mais il ne peut s'agir que d'images percutantes et troublantes. Pas les plus violentes, on s'entend, mais pourquoi tant tenir à diffuser des images? Il y a ici aussi de bons arguments. 1. Le caractère percutant et troublant d'une image ou le traumatisme qu'on craint d'ajouter aux victimes ne peut être le seul critère pour évaluer l'intérêt public à diffuser. Il ne s'agit pas de minimiser ce traumatisme, mais à ce compte, tout procès en cause aux victimes et familles. La bonne pratique voudrait que les médias s'abstiennent de diffuser des images de violence ou de ce qui est morbide, sensationnaliste ou générateur d'angoisse. Sauf qu'il arrive que ces images soient utiles, voire essentielles à la compréhension d'une information. On revoit depuis plus de 50 ans les images sensationnelles et troublantes de la mort violente en direct de John F. Kennedy. Un meurtre. Personne ne s'en scandalise, car ces images ont fait l'histoire et permettent d'éclairer, mais pas tant que ça, le débat sur la présence d'un deuxième tueur. 2. Cela mène à cet autre argument des médias sur l'utilité publique des images de la tuerie pour mieux comprendre ce qui s'est passé et apprécier éventuellement la justesse de la peine qui sera imposée à M. Bissonnette. La couronne croit possible de servir l'intérêt public autrement, en permettant par exemple aux journalistes de décrire oralement ou par écrit les images de la tuerie. Beau sujet de débat, écrit François Bourque. On accepte chaque jour que la plupart des informations livrées au public par les médias passent à travers le filtre ou le biais des journalistes professionnels. Est-ce essentiel ici que le public voit lui-même des images pour pouvoir se faire sa propre idée? 3. Il y a une question de principe. La justice doit être transparente et l'accès à l'information le plus large possible. Libre ensuite à chaque média de décider de ce qu'il diffuse. La crainte que des images soient utilisées avec malveillance dans Internet ou les réseaux sociaux ne doit pas priver les médias et le public du droit à l'information. Beau débat, ici encore. J'ai été étonné et, pour tout dire, déçu d'entendre le porte-parole du Centre culturel islamique de Québec, M. Boufeldja Ben Abdallah, dire au sortir de l'audience qu'il craignait pour les relations futures entre sa communauté et les médias. Visiblement irrité et troublé, ce dernier répétait que les médias veulent diffuser les images les plus dures de la tuerie, même si les faits disent le contraire. Les relations médias-communautés islamiques, jadis minimales, se sont beaucoup améliorées depuis la tuerie. Ce serait triste de nourrir l'animosité des siens et de tout saboter pour un malentendu, car j'ose espérer qu'il s'agit d'un malentendu. Dans la tribune, le Triolet offrira à compter de la prochaine rentrée scolaire une nouvelle concentration en escalade en collaboration avec son partenaire Vertige Escalade. Avec l'arrivée de cette discipline aux Jeux olympiques de 2020, les artisans du projet y voyaient une belle occasion de démarrer une première cohorte. C'est un article d'Isabelle Pillon. C'est Voltige qui a approché l'école secondaire Sherbrookeoise qui offre une vingtaine de programmes de sport-études. Là où c'est devenu vraiment intéressant, c'est lorsqu'on a su que l'escalade ferait partie des Jeux olympiques à partir de 2020. Un des buts des programmes sport-études, c'est d'amener des athlètes vers l'excellence. La plupart des sports que l'on offre amènent soit vers les ligues professionnelles, soit vers les grands jeux. Ça devenait donc intéressant de développer un partenariat vers l'escalade, explique Jean-Benoît Jubainville, directeur adjoint au Triolet. Pour la première année, ce sera une concentration affiliée au programme de sport-études. L'arrivée de la discipline aux Jeux olympiques de 2020 amènera une grande visibilité à ce sport, croit Félix Gendron, entraîneur en chef et directeur technique chez Vertige Escalade. C'est un sport encore moins connu que la moyenne en Amérique du Nord et au Canada. C'est une activité très commune en Europe. C'est une question de temps avant que le public en général soit vraiment rejoint, indique celui qui est aussi ouvreur en chef. Le sport a quand même connu un bon essor depuis le début des années 2000, estime Félix Gendron. Dans le quotidien, sous la plume de Pascal Girard, qui de mieux placé que des éducatrices pour confectionner une ligne de vêtements pour les 0 à 6 ans? C'est l'idée derrière le lancement mardi après-midi de la collection Mini Amour, issue des deux garderies de Chicoutimi du même nom. L'activité s'est déroulée au commerce Eugène Allard de la rue des Roitelets, dont le président Jean-Denis Allard est le conjoint d'André Laforêt, propriétaire des Mini Amour. Ils sont les parents de Raphaël Le, La Forêt à l'art, directrice des Mini Amours et derrière le projet des vêtements. Toutes les éducatrices devaient créer un prototype de vêtements. On a réalisé que ça apportait quelque chose aux enfants. C'est pour ça que pour cette saison, on lance trois de nos idées. A d'abord expliqué la directrice devant une foule imposante composée de bien des jeunes enfants et de leurs parents présents pour cet événement. Elle a présenté les trois lignes initiales de la collection. Il y a la collection Jean Bave pour les bébés de 0 à 24 mois. Elle offre des vêtements pour les bébés filles et bébés garçons avec une bavette intégrée. Pourquoi on a pensé à ça? C'est que quand les bébés sont en période de dentition, ils vont avoir une bavette qui est accrochée au cou toute la journée. Souvent, ils essaient d'enlever cette bavette-là car c'est un inconfort. C'est pourquoi notre vêtement a une bavette intégrée qui est vraiment posée sur le vêtement. Donc, il n'y a pas d'inconfort au niveau du cou et l'enfant ne le sait pas qu'il a une bavette sur son vêtement, car il ne la sent pas, a-t-elle détaillé. Pour ce qui est du deuxième item, il s'agit d'un concept qui mise plutôt sur le visuel. On a également créé la collection « La vie est belle » pour les 2 à 6 ans. Cette collection-là travaille les émotions, car aujourd'hui, c'est important d'arriver à exprimer nos émotions. Donc, les chandails présentent des petits garçons et des petites filles qui vivent différentes émotions. Il y a le garçon qui est surpris, timide ou enjoué. Donc, l'illustration va permettre à l'enfant de reconnaître les signes de son émotion, a-t-elle poursuivi en indiquant qu'il s'agit d'une façon d'amorcer le dialogue entre les enfants sur l'émotion affichée sur leur chandail. Finalement, le dernier vêtement présenté était le short intelligent. C'est un short avec un boulier dessus. Donc, l'enfant va pouvoir pratiquer son nom dessus car il y a les lettres pour écrire son prénom. Ou encore, il pourra pratiquer les mathématiques de 1 jusqu'à 10. Ça s'adresse à un enfant qui a besoin de beaucoup de bouger. Ainsi, lorsqu'il est assis, il a toujours quelque chose à faire. Question de faire du lancement de la collection un geste utile, Raphaël Laforêt à l'art a décidé de faire un don d'$1 pour lutter contre la tyrosinémie, une maladie de foie, pour chaque chandail qui sera vendu. Merci d'écouter le quotidien des quotidiens. C'est Hélène Denis qui vous accompagne avec plaisir en ce mercredi du printemps 2018. Pas chaud, mais ça va finir par se réchauffer. Il faut garder espoir. Restez avec nous dans un petit moment, les actualités culturelles et aussi le segment Sujet libre.
Mmh. savoir, tu veux pas le savoir maintenant. Tout le monde le sait, ce que personne veut voir maintenant.
Je veux pas le savoir, tu veux pas le savoir maintenant. Tout le monde le sait, mais personne veut le voir pour l'instant.
Je veux pas m'en faire, tu veux pas t'en faire maintenant. Tout le monde le sait, ce qu'il nous faudrait faire maintenant.
Je veux pas m'en faire, tu veux pas t'en faire maintenant. Tout le monde le sait, ce qu'il nous faudrait faire, mais pour l'instant.
On danse la danse du déni de l'évidence. On danse la danse du déni de l'état d'urgence.
Tout le monde sait qu'ils font pas leur devoir maintenant.
Je veux rien devoir, tu veux rien devoir maintenant. Tout le monde remet son devoir à demain pour l'instant.
Je veux pas me lever, tu veux pas te lever maintenant. Tout le monde sait qu'il faudrait se lever maintenant.
Je veux pas me lever, tu veux pas te lever maintenant. Tout le monde sait qu'il faudra se lever, mais pour l'instant.
On danse la danse du déni de l'évidence. On danse la danse du déni de l'état d'urgence. Mais pense quand tu danses à l'énergie. Pense au temps que tu prends pendant que les aiguilles
pour se rendre à l'évidence.
La formation québécoise Mes Aïeux nous proposait Le déni de l'évidence, tiré de leur album de 2008, La ligne orange. Ligne orange qui a donné du fil à retordre à de nombreux utilisateurs du métro à l'heure de pointe ce matin sur Montréal.
Alors, merci pour cette chanson qui nous fait un peu plus, digérer la réalité du métro. Quand ça va bien, mais quand ça arrête, c'est pas nécessairement jojo. Alors, allons-y avec les actualités culturelles. On parle du Gala québécois du cinéma, un peu partout dans les journaux montréalais, entre autres. Et je vais vous lire les finalistes, en bref, les finalistes de la 20e édition du Gala Québec cinéma qui aura lieu le 3 juin sont maintenant connus. Le problème d'infiltration de Robert Morin se distingue avec 10 sélections et une présence dans toutes les catégories de pointe. Coup d'œil, c'est un article d'André Duchesne dans la presse. Le grand gagnant des sélectionnés est le problème d'infiltration finaliste dans 10 catégories. L'œuvre de Robert Morin est présente dans toutes les catégories de pointe, meilleur film, meilleur scénario, meilleure réalisation. Les trois acteurs principaux, Christian Bégin, premier rôle masculin, Sandra Dumaresque, rôle féminin de soutien, et Guy Thauvette, rôle masculin de soutien, sont tout aussi retenus. Je suis particulièrement heureux pour Robert Morin. Son cinéma n'a pas toujours eu le rayonnement qu'il méritait, s'est réjoui Christian Bégin. Robert a toujours travaillé avec trois bouts de chandelle, mais en faisant un cinéma libre. C'est une tête de cochon, un résistant, et je suis content que ça lui arrive. Monsieur Morin est actuellement en tournage dans le Grand Nord. La déception, Hochelaga, Terre des âmes. Hochelaga, Terre des âmes de François Girard se distingue aussi avec ses 10 sélections. Par contre, la majorité de celles-ci se retrouvent dans les catégories techniques. Le long métrage n'a pas été retenu dans les catégories du meilleur film, du meilleur scénario et de la meilleure réalisation. Du côté de la distribution, Emmanuel Schwartz est finaliste pour le meilleur rôle masculin de soutien. Roger Frappier, de Max Film, producteur de Schlaga Terre des âmes, est visiblement déçu du sort réservé à son film. Par courriel, il nous a fait parvenir ce commentaire. Tout ce que je peux dire, c'est que François Girard est reconnu comme un grand metteur en scène et réalisateur partout sur la planète, sauf chez lui. Il a évidemment été la grande inspiration de ce film en communiquant sa vision à tous les départements qui ont été nommés. Je ne dirai rien de plus. Les 7 longs-métrages finalistes dans la catégorie du meilleur film sont Les Affamés de Robin Aubert, Boost de Darren Curtis, Chien de garde de Sophie Dupuis, La petite fille qui aimait trop les allumettes de Simon Lavoie, Le problème d'infiltration de Robert Morin, Les Rois mongols de Luc Picard et Tuk Tuk de Robin Aubert. Quelques participants présents à l'annonce d'hier matin ont été surpris de voir deux films dont la carrière en salle a été discrète mettre la main sur d'importantes sélections. Ainsi, Boost de Darren Curtis revendique 8 sélections, dont celle du meilleur film, de la meilleure réalisation et du meilleur scénario. Par ailleurs, les comédiens Jesse Camaco et Joey Klein sont tous les deux finalistes dans la catégorie du meilleur premier rôle masculin pour leur travail dans le long métrage We're Still Together de Jesse Klein. Pour la première fois, les administrateurs du gala ont décidé de faire passer de 5 à 7 le nombre de longs-métrages de fiction sélectionnés pour l'iris du meilleur film. Les producteurs avaient le sentiment que c'était important de faire rayonner le plus possible le plus grand nombre de films, dit Ségolène Roderer, directrice générale de Québec Cinéma. Les règlements sont revus par le comité de représentation professionnelle de Québec Cinéma chaque année. Et on verra s'ils vont confirmer cette nouvelle formule ou non pour le gala de 2019. U2 a choisi le Québec et plus précisément Laval pour répéter son prochain spectacle Experience plus Innocence, dont la première aura lieu à Tulsa, en Oklahoma, le 2 mai prochain. Charles Saint-Don-Courtois, responsable des communications du Rocket de Laval, Club École du Canadien de Montréal, a confirmé à la presse que le groupe répétait sur la patinoire principale de la Place Belle, ce qui oblige l'équipe de la Ligue américaine à utiliser exceptionnellement l'une des patinoires secondaires pour ses entraînements. Lors de l'entraînement d'hier, la presse a pu constater que la sécurité y était renforcée. Les joueurs étaient même escortés entre les vestiaires et la patinoire, ce qui n'est pas le cas en temps normal. Toujours selon M. Saint-Don-Courtois, le groupe libérera la place Belle vendredi pour permettre au Rocket de disputer la dernière partie de sa saison. U2 devrait reprendre possession des lieux par la suite. Aucun autre événement n'est inscrit au calendrier officiel de la place Belle ce mois-ci. Ni la Place Belle, ni le promoteur Evenco, ni la maison de disques Universal n'ont voulu commenter la nouvelle.
Body bruised.
Vous avez reconnu la très belle voix de Bono de U2. La comédienne et chanteuse Charlotte Gainsbourg souhaite transformer la maison de son père située rue de Verneuil à Paris en musée, et cela depuis une dizaine d'années. Mais elle aurait besoin d'appui pour réaliser ce projet, a-t-elle confié dans une entrevue au Parisien. La mairie de Paris va peut-être m'aider, mais il faut que j'aille frapper aux portes, que je trouve aussi des fonds privés. Si vous pouvez passer le message, il faut que ça bouge. Si le musée doit voir le jour, c'est maintenant ou jamais. Si ça ne marche pas cette fois, j'arrêterai. Serge Gainsbourg a habité cette maison de 1969 à sa mort et ses fans sont nombreux à s'y présenter régulièrement pour lui rendre hommage, comme le prouvent les nombreux messages et graffitis sur le bâtiment. Le premier blockbuster de l'univers cinématographique Marvel, dédié à un super-héros noir, Black Panther, continue à faire tomber les records. Le film a engrangé pas moins de 665,6 millions de dollars aux États-Unis et au Canada depuis sa sortie. Il dépasse ainsi Titanic en 1997, qui avait accumulé 659 millions de dollars en Amérique du Nord, et se place dorénavant en troisième position des plus grosses recettes nord-américaines de tous les temps. Il reste encore quelques records à fracasser. À ce jour, Black Panther n'est encore que 10e du classement des records mondiaux. Terminé, des pirates informatiques ont réussi à faire disparaître pendant quelques heures hier en matinée les clips de plusieurs vedettes dont Taylor Swift, Drake, Adele et Shakira, et notamment celui de Despacito, le succès de Luis Fonsi et de Daddy Yankee, qui est la chanson la plus populaire sur YouTube avec ses 5 milliards de vues. Les clips ont été modifiés de façon à ce qu'on ne puisse pas les trouver sur le site ou effacés par deux pirates surnommés Prozox et Curwash, qui en ont profité pour passer des messages pro-Palestine. Selon YouTube, le piratage se serait produit par l'entremise de la plateforme Vevo. Thank you.
still all his heartbreak in that last look. How he must have asked, did I just turn and stare in icy silence? But what was I? What was I to say? What can you say when a love affair is
C'était la chanteuse torontoise Barbara Licca avec la reprise de la pièce How Insensitive, une pièce classique, une reprise d'une composition du Brésilien Antonio Carlos Jobim qui a été repris par une multitude d'artistes depuis plusieurs décennies.
Sujet libre des nouvelles des aventuriers. Alors, c'est dans la section pause de la presse. L'appel de l'aventure est puissant. Ils sont plusieurs à y répondre, à laisser le confort de côté pour se lancer dans des expéditions dans des régions isolées. Pause s'intéresse à leurs expériences. Alors, Marie Tison, qui signe un texte intitulé « À travers l'Amazonie ». Marie-Josée Béliveau et le cinéaste Santiago Bertolino partiront du Brésil et emprunteront diverses embarcations de gros bateaux à trois étages jusqu'à des pirogues pour parcourir le fleuve Amazon jusqu'au Pérou et en Équateur. Ils entendent rencontrer des communautés locales qui vivent de la forêt et qui luttent pour préserver leur mode de vie comme le peuple Awa, menacé par l'exploitation forestière et une communauté péruvienne mobilisée contre la construction d'un barrage. Marie-Josée Béliveau a un baccalauréat en anthropologie et une maîtrise en géographie. Elle a eu un coup de cœur pour l'Amazonie lorsqu'elle a survolé en avion cet immense territoire. Elle a profité de toutes les occasions possibles pour visiter la région. Je m'intéresse beaucoup aux cultures autochtones et leurs liens avec le territoire et l'environnement. Quand j'ai vu que Frédéric Dion et Caravanier offraient une bourse « Oser l'aventure », j'ai voulu soumettre ce projet qui reliait mes centres d'intérêt. Le cinéaste Santiago Bertolino a entendu parler du projet et a communiqué avec elle pour filmer un documentaire sur le périple. J'ai trouvé que c'était un plus, que ça améliorait le projet à différents niveaux, affirme Mme Béliveau. Le projet a demandé beaucoup de recherches. Je regardais les cartes pour calculer les distances entre les différents points d'intérêt. Il s'agissait également d'identifier des communautés intéressantes à visiter. J'avais entendu parler de projets où encore des gens ont communiqué avec moi pour me mettre en lien avec des organisations. Il a également fallu s'entraîner tous les jours pendant des mois. Il faut être en forme physiquement pour faire ce voyage-là. Il fallait également boucler le financement. Marie-Josée Béliveau a remporté la bourse de Frédéric Dion et de Caravanier, soit 5 000 $ en argent comptant et 2 500 $ en équipement Mountain Hardware, ce qui lui a donné un sérieux coup de pouce. Toutefois, il a fallu augmenter le budget pour que Santiago Bertolino puisse se greffer au projet. Il a fait des demandes de subventions, mais dans le milieu du documentaire, c'est de plus en plus difficile d'avoir accès à des fonds. Nous avons alors lancé une campagne de sociofinancement. Nous sommes rendus à 5 000 $ sur un objectif de 12 000 $. Avec 5 000, on sait que Santiago peut partir avec moi. Marie-Josée Béliveau craint la région de la frontière entre le Brésil, le Pérou et la Colombie. Il y a beaucoup de criminalité liée à l'exploitation illégale de la forêt et au trafic de drogue. En septembre dernier, une kayakiste britannique a été assassinée à cet endroit. Il faudra être très prudent. Nous allons écouter ce que les gens nous disent. C'est pour ça que je veux être sur une embarcation avec des gens et tisser des liens avec eux. Je pense que c'est ça qui va nous protéger le plus. Elle s'attend également à ce qu'il soit plus difficile de faire du bateau stop dans certaines régions où il y a moins de navigation. Enfin, un dernier défi, les petites bibites et les grosses, les fourmis, les mygales, les serpents. Ça peut être juste désagréable comme les fourmis rouges ou ça peut être plus menaçant comme les mygales. Bien sûr, il y a la malaria. Les médicaments sont très chers. Nous avons décidé de n'en prendre que dans les endroits où la malaria est davantage présente. Non, Marie-Josée Béliveau, âge 46 ans, profession ethnogéographe, coéquipier San Diego Bertolino, projet traverser l'Amazonie pour aller à la rencontre des peuples de la forêt. Début de l'aventure, et c'est parti, 27 mars. Une autre aventurière, les expéditions ne se déroulent pas toujours comme prévu. Marilyn Marchand a dû mettre fin à son expédition après seulement 2 semaines, récit d'une déconvenue toujours signée par Marie Tison. L'expédition doit couvrir 382 km entre le village de K-A-N-G-I-K-S-U-J-U-A-Q, au nord de la baie d'Ungava, et le village de Pouvirnitouk, au bord de la baie d'Hudson. Elle doit durer environ 25 jours. Elle commence bien. Il y avait un groupe d'Inuits qui était en formation pour devenir des guides arctiques, se rappelle Marilyn Marchand, de retour à Montréal. Ils sont venus skier avec nous pendant la première journée. C'était génial. La deuxième journée, tout en montée, est plus difficile. Les vents se lèvent, le coéquipier de Marilyn subit des engelures. Heureusement, il y a une série de refuges dans cette section du trajet, entre Kangik-Zu-Jouak et le parc national des Pengalwit. Les skieurs peuvent donc se mettre à l'abri. Le blizzard s'installe pour plusieurs jours. Marilyn Marchand veut continuer, mais le coéquipier abandonne. « Je ne m'étais pas préparée psychologiquement à le faire seule. Je ne me sentais pas à l'aise de le faire. » Elle décide quand même de se rendre seule jusqu'au cratère des Pengalwit à quelques jours de ski, puis de revenir sur ses pas. Tout au long de ce trajet, il y a un filet de sécurité avec la présence de refuges à tous les 30 km. Le cratère de météorite de 3,4 km de diamètre ne la déçoit pas. Je suis arrivée au coucher du soleil. La vue de ce cratère est un des beaux moments de l'expédition. Le retour est toutefois difficile. Le blizzard des premiers jours a déposé une grande épaisseur de neige poudreuse, difficile à négocier avec un lourd traîneau. Je me retrouvais prise dans des trous de neige, c'était l'enfer. Marilyn Marchand est évidemment déçue de ne pas avoir achevé l'expédition prévue. Au cours de l'été 2017, elle avait traversé le Nunavik à pied et à bord d'un pack craft, un petit kayak gonflable. Elle était en solo. Le fait de voyager avec une autre personne pour cette nouvelle expédition constituait d'ailleurs pour elle un défi. « J'ai l'habitude d'en faire à ma tête », avait-elle déclaré à la presse avant son départ. Là, il s'agira de faire des compromis. Marilyn Marchand a commencé à tirer ses leçons de son expérience. « Si je m'engage dans un projet avec quelqu'un, je devrais vraiment m'assurer qu'il y a compatibilité en fait de personnalité. Je devrais également m'assurer qu'il y a une préparation adéquate. » Elle a fait une autre importante réalisation. « Après une dure journée de ski, c'est impossible de résister à un refuge, » dit-elle en riant. « Tu pars le matin en te disant que tu monteras ta tente, mais après 13 heures de ski, si tu vois un refuge, tu ne peux pas résister. » Marilyn Marchand n'a pas encore eu le temps de songer à une autre expédition. Elle aimerait retourner dans le Nord, mais pas nécessairement pour refaire le même projet, le même trajet. « J'aimerais développer de nouvelles habiletés, à bâtir un igloo, apprendre à monter une tente par grand vent. J'aimerais trouver un projet dans des conditions similaires, mais d'une durée d'une semaine ou de 10 jours, avant de considérer de nouveau cette traversée. » Non, Marilyn Marchand, âge 32 ans, profession comptable et aventurière. Projet, traverser la péninsule d'Ungava à ski, début de l'aventure, 20 mars. L'Association des distributeurs exclusifs de livres en langue française a dévoilé sa 3e étude annuelle sur le prix des livres importés vendus au Canada en 2017. Ces livres y ont représenté 41,5 % du total des ventes de livres en langue française. Ils sont vendus ici à un tarif en moyenne 6 % plus élevé que dans leur pays d'origine. Les nouveautés ne sont pas les seules à attirer l'intérêt. Elles n'ont accaparé que 50,2 % des ventes. Par contre, les parts de marché pour les années antérieures diminuent progressivement. Par ailleurs, les 500 best-sellers importés ont représenté 0,3% des titres vendus de 2017 et 26% des exemplaires. En moyenne, ces 500 titres se sont vendus à 2310 exemplaires. L'étude appuie sur les données brutes de Gaspard qui indique que 4 367 219 exemplaires de 184 603 titres importés en français ont trouvé lecteur au pays l'an dernier. Chacun de ces ouvrages a été vendu en moyenne à 24 exemplaires. Une petite dernière culturelle avant de terminer. Après avoir travaillé ensemble au film Bon Cop, Bad Cop 2, le couple Patrick Huard et Annick Jean s'unissent encore au cinéma, lui comme acteur et elle comme auteur. Annick a écrit un court-métrage. Le titre de travail, c'est « La porte ». C'est un court-métrage qu'on devrait tourner en novembre. C'est sur l'anxiété. C'est quelqu'un qui est dans une période de sa vie où, pour la première fois, il se retrouve dans une anxiété qui est grave. Ça dégénère vers l'agoraphobie. Son défi, c'est de réussir à sortir de la maison, annonce le comédien producteur. Merci d'avoir écouté Le quotidien des quotidiens. Ici Hélène Denis qui vous invite à rester là. Si vous nous écoutez en direct, j'anime les paractualités dans quelques secondes. Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical. On se retrouve lundi prochain. À bientôt.